Chapitre 44. La route à travers la forêt rappela à Ludivine sa première visite au Bois Larry. Son impression étrange, d'un hôpital perdu dans la nature. Ce mur de pierre, et plus loin cette grille, qui isolait encore plus les bâtiments, à la manière d'une prison, tout comme son architecture composite. Manoir ancien, les dépendances d'un côté, masse moderne dans le fond. Comme si l'endroit n'était jamais parvenu à savoir lui-même ce qu'il était. Pourquoi il avait été fait. Villa bourgeoise, centre d'expérimentation honteuse, hôpital pour enfants. En remontant l'allée qui longeait les installations, Ludivine remarqua que les tacs sanglants avaient été nettoyés. La gendarme se présenta à l'accueil et demanda à rencontrer un membre de la direction, ce qui se révéla impossible à l'improviste. Une partie était absente et les autres en rendez-vous ou réunion. « Peut-être que vous pourrez m'aider ?» demanda Ludivine sans se démonter. « J'ai une liste de noms du personnel. Je voudrais m'assurer qu'il n'en manque aucun. Pour le personnel médical, oui, je pense que je peux. Pas pour les profs, c'est ça ? Je les vois moins. Je ne travaille pas directement avec eux, donc je ne les connais pas tous. » Ludivine lui présenta les feuilles et la secrétaire les relut trois fois pour s'assurer qu'elle n'oubliait personne. « Non, je crois que vous les avez tous. » La gendarme désigna les couloirs et les escaliers qui couraient plus loin. « À qui je peux demander pour les enseignants ?»« À l'un d'entre eux, je suppose. Vous ne cherchez les noms que des titulaires actuels, n'est-ce pas ?»« Pourquoi ? Ça change souvent ?»« Ça dépend des années. Je crois que c'est assez stable en ce moment. » Ludivine n'avait pas pensé une seconde à l'ancien personnel. Elle était venue jusqu'ici, sans plan particulier. Sinon avec l'idée de se laisser porter par son instinct. D'interroger les employés du Bois Larry, au hasard, et de voir ce qu'elle pourrait remonter dans ses filets. Il faut que je m'adresse à l'Éducation nationale pour obtenir tous les noms de ceux qui sont passés entre ces murs ? Interrogea-t-elle. Dans ce cas-là, vous n'aurez que les profs, pas le personnel soignant. Pourquoi vous n'allez pas plutôt aux archives ? Ludivine lui adressa un large sourire. Nathalie, c'est ça ? Dit-elle en lisant le nom sur le badge. Vous venez de devenir ma meilleure amie. Vous me montrez où c'est ? Ludivine joignit ses mains et les tira le plus possible au-dessus de sa tête. Sa colonne vertébrale craqua, ainsi que sa nuque. Elle était tout ankylosée d'avoir passé 3 heures, le nez dans des boîtes en carton, entre des étagères poussiéreuses, dans un sous-sol sans fenêtre, qui sentait l'humidité. Les ampoules qui éclairaient la cave tremblaient de temps à autre, au gré des baisses d'intensité de l'alimentation électrique, obligeant la jeune femme à interrompre sa lecture régulièrement. Elle avait procédé à la saisie de tous les noms des professeurs et du personnel médical qui étaient passés par le Bois Larry depuis près de 10 ans. Tout était méticuleusement conservé. Il lui avait seulement fallu retrouver les bons cartons et étudier les registres, un à un, pour les mettre de côté, en vue d'y apposer le cachet de cire officiel. Ludivine avait envie d'une pause, de remonter s'aérer un peu. Mais elle avait presque terminé. Il ne lui manquait plus que les années 2000 et 2001. Elle hésita. Autant terminer avant de ressortir. Les archives occupaient plusieurs caves successives, 3 pièces voûtées, qui communiquaient entre elles par un passage ouvert, renforcé par des briquettes rouges. Nathalie lui avait montré l'emplacement des documents liés au personnel, et la gendarme avait directement commencé son travail de recherche, sans même prendre le temps de s'intéresser au reste des archives. À présent qu'elle avait presque accompli sa mission, la curiosité revenait. Elle marcha jusqu'au bout de son couloir d'étagère et admira le reste. Chacune des 3 salles semblait surchargée de rayonnage, semblable à ceux qu'elle avait passés en revue, couverts de dossiers, de cartons et de boîtes. Ludivine déambula d'une pièce à l'autre. Elle ne se sentait pas à son aise et se surprit elle-même à regarder à plusieurs reprises par-dessus son épaule pour s'assurer qu'on ne la suivait pas. Depuis quelques minutes, elle éprouvait la désagréable sensation de ne pas être seule. Relax, pense à autre chose. C'est psychologique. Auto-suggestion. Elle circulait lentement d'une allée à une autre, se rassurant de leur linéarité. Si Si quelqu'un avait voulu jouer, il aurait pu construire un formidable labyrinthe, imagina-t-elle. Il y avait largement de quoi faire. Combien de vies s'amassaient ici? Combien de rapports sur la santé d'enfants, notant leurs progrès, leurs échecs, tirant des conclusions, parfois des traits définitifs? Qu'est-ce qui avait attiré les tueurs jusqu'ici? Pourquoi avait-il eu ce besoin irrépressible de marquer ce territoire comme le leur? Était-ce pour cibler les enfants comme elle l'avait cru? À présent, Ludivine en doutait fortement. Le personnel n'avait a priori aucun antécédent judiciaire, et il paraissait très peu probable qu'un individu puisse servir la cause de Étoile E, sans un certain passé criminel, l'ayant prédisposé à le comprendre, à partager certaines valeurs. Alors pourquoi? Michaelis n'avait certainement pas tort. Le ou les tueurs avaient répondu à une pulsion, un besoin d'expression, une revendication plus forte que la raison. Cet endroit était à eux. À Étoile E. Qu'abritait le bois Larry de si important à leurs yeux? Était-ce là, quelque part, enfoui dans le passé de l'institution? Ludivine releva la tête. Elle était parvenue tout au fond des caves, face à des casiers en fer très anciens, aux étiquettes délavées, effacées. Il y en avait une dizaine. Les ampoules se mirent à clignoter en zézayant. Lorsqu'elles se stabilisèrent, la jeune femme passa la main sur le couvercle de l'une d'entre elles pour effacer la poussière et mieux distinguer les traces marron. Il s'agissait d'un symbole, une croix gammée usée par le temps. Comme une petite fille prise en pleine bêtise, Ludivine ôta sa main rapidement et se retourna pour s'assurer qu'elle était bien seule. Toujours cette impression que quelqu'un l'épiait. Il y avait des sons anormaux autour d'elle, des frottements, des crissements, presque imperceptibles. Ludivine se pencha au bout d'une étagère pour guetter dans l'allée centrale, mais elle ne vit rien. Alors, elle retourna aux sinistres caisses. Elle en attrapa une et la tira à elle. C'est lourd, elle est bien pleine. La croix gammée ne laissait planer aucun doute sur l'origine et l'époque de son contenu. Ludivine hésita. Si cet endroit avait abrité autant d'horreurs qu'on l'affirmait, était-ce une si bonne idée que de s'y plonger? Les doigts de la gendarme suivirent le tracé du svastika. Nouveau craquement, un peu plus loin. Cette fois, Ludivine passa sa main sous sa doudoune pour sentir la crosse de son Six Hour. T'es pas bien, non? Se tensa-t-elle, en se ravisant aussitôt. Il n'y avait aucune raison de brandir une arme à feu, même si elle était espionnée. « Qui est là ? » demanda-t-elle avec une assurance qui l'étonna. Une ombre bougea au bout du rayonnage, et une femme apparut, petite, frêle, avec de grosses lunettes, un tailleur trop grand et une permanente trop frisée. Pourtant, la femme affichait une mine sévère.
Je suis la directrice de l'établissement, Madame Hubbard. Je travaille pour la section de recherche de l'agenda. Je sais qui vous êtes. Nathalie m'a prévenu. Vous trouvez ce que vous cherchiez?
Oui. Depuis combien de temps était-elle là? À la surveiller? Que craignait-elle? Encore une flippée du contrôle qui veut tout savoir. Le regard de la directrice se posa sur la boîte devant Ludivine. Qu'est-ce que c'est? Demanda celle-ci.
Rien qui touche à votre enquête, je crois.
Ludivine détestait qu'on lui parle sur ce ton. Elle répliqua.
Ça, c'est à moi de le dire. Ce sont les dernières archives des occupants allemands,
soupira la directrice, sans masquer son irritation. À l'époque du Lebensborn.
Je vois que vous êtes au courant. C'est une partie de l'histoire du bois Larry que nous préférons oublier ici. Nous sommes aujourd'hui bien plus que ça.
Je croyais qu'il n'existait quasiment plus de traces de cet épisode.
Quasiment, est le mot. Il n'y a plus que ces boîtes. Tout le reste, les Allemands l'ont détruit avant de fuir.
Et pourquoi pas celle-ci?
Un oubli. Je crois qu'elles étaient à part, dans un placard qu'ils ont négligé. Le manoir est grand, il y a beaucoup de recoins.
Qu'est-ce qu'elles contiennent?
Des noms, qui n'ont rien à faire hors de ces murs.
Elle avait prononcé ces mots avec beaucoup de sécheresse, comme une menace. Ses petits yeux noirs défiaient la jeune femme.
Vous savez, avant les nazis, L'eugénisme a été pratiqué massivement par les Américains, ajouta la directrice. Dans les années 20 et 30, ils se sont passionnés pour l'amélioration de la race et ont conduit de larges campagnes de stérilisation pour limiter le nombre de déficients mentaux. Ils stérilisaient à tout va, parmi les pauvres, qui risquaient de provoquer la dégénérescence de l'humanité, et aussi les étrangers, bien sûr. Il n'y a aucun chiffre précis sur le nombre d'actes commis. On parle de 60 000 personnes au minimum, mais ça pourrait être beaucoup plus. Les États-Unis ont préféré oublier cette sombre part de leur histoire, surtout au regard de la folie qui s'est emparée des nazis peu après. Pourtant, elle est réelle. Ils ont été des pionniers dans ce secteur. Certains théoriciens américains sont allés jusqu'à préconiser la construction de salles pour enfermer adultes et enfants déficients et les tuer en utilisant un gaz létal. Des Américains ont eu cette idée en premier. Ludivine serra les poings. Elle se sentait de plus en plus oppressée dans ce sous-sol moite et sombre, face à cette femme qui perdait son calme. La directrice s'était lâchée et semblait ne plus pouvoir s'arrêter. Il y avait même un siège pour coordonner ces opérations. L'Eugenics Record Office à Cold Spring Harbor, dans l'État de New York, fondé par Charles Davenport, qui ne s'est jamais caché de ses connexions avec les nazis avant et même pendant la guerre. Il a fondé un centre de recherche qui existe encore aujourd'hui, devenu un des leaders dans la recherche sur les cancers, et pas moins de 8 prix Nobel ont transité par ses laboratoires à l'histoire équivoque. Jusqu'en 1974, la Cour suprême américaine a défendu les lois autorisant une trentaine d'États à recourir à la stérilisation. « Pourquoi me racontez-vous ça ?» s'étonna Ludivine, qui ne voyait pas où elle voulait en venir. « Pour vous rappeler qu'il est bon de ne pas juger trop hâtivement. »« Les nazis ?» ricana sèchement la gendarme. « Non, l'histoire. Les gagnants l'écrivent et sélectionnent ce qui doit être raconté et ce qui doit être oublié. Mon établissement est aujourd'hui une institution digne et respectable. Qu'on ne le condamne pas pour un passé certes effrayant, mais dont bien d'autres pourraient rougir, qui ont pourtant su disparaître des livres. Ne vous plongez pas là-dedans. Ne faites pas remonter à la surface des souvenirs qui n'ont plus de raison d'être à présent. Ils ne concernent pas votre enquête. C'est à moi d'en juger. Laissez ce passé de côté, commanda la directrice.
Que de mystère, ironisa la gendarme en soulevant le couvercle.
Elle avait décidé de passer à l'acte. Elle en avait assez des bavardages et de s'entendre dire ce qu'elle devait faire. « Puisque vous ne m'aidez pas vraiment, je n'ai d'autre choix que de regarder par moi-même, Madame Hubbard. Vous ne devriez pas. Vous voulez faire entrave à l'enquête ? Je collabore, mademoiselle, je collabore. Je pourrais vous mettre dehors en exigeant un document officiel signé d'un juge pour vous laisser perquisitionner chez moi. Je ne le fais pas. » Madame Hubbard, c'est dans les films américains les mandats de perquisition. J'ai l'autorisation du juge d'instruction d'effectuer tous les actes utiles à l'enquête. Mais ce que vous remuez là n'est pas respectueux.
Ludivine découvrit des liasses de papier jauni. La plupart tapées à la machine, rédigées en allemand.
« Pour qui ?» demanda-t-elle tout en fouillant la boîte. « Pour les victimes de Celebensborn !» répondit la directrice, en haussant sensiblement le ton.
Ludivine la regarda. Madame Hubbard prenait les choses très à cœur. Le passé du Bois-Larry lui pesait. Il devait ressurgir de temps à autre et occulter le travail que son établissement opérait, jour après jour, sur des dizaines d'enfants, ternissant sa réputation.
« Il y a les noms des femmes qui sont passées entre ces murs à l'époque ?» s'étonna la gendarme. « Entre autres, oui. Mais est-ce que tout ça ne devrait pas plutôt être entre les mains d'historiens ou de… Personne n'a envie de remuer ces vieilles histoires, mademoiselle, personne !» et surtout pas les principaux intéressés. »
Elle le prenait avec tellement de gravité qu'un instant Ludivine se demanda si elle n'était pas elle-même l'une de ses victimes. Mais l'âge ne pouvait pas correspondre. Madame Hubbard avait à peine 50 ans. Soudain, une pensée jaillit dans l'esprit en perpétuel mouvement de Ludivine. La cinquantaine. Et si c'était un peu plus ?
« Il y a aussi les noms des enfants, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle.
La directrice serra les mâchoires, avant de hocher doucement la tête. « Vous… vous en faites partie ?» fit Ludivine, gênée.
« Pardon ? Non, bien sûr que non. Je suis née en 54.
Je suis désolée, j'ai cru que…
Que j'en faisais une affaire personnelle ? C'est le cas. Ces vieux papiers sont sous ma garde, et ces gens n'ont pas à être embêtés avec ça. La plupart ne sont probablement même pas au courant qu'ils sont nés entre ces murs. Dans ces conditions. Et croyez-moi, vu ce qui s'est passé ici, c'est vraiment mieux ainsi.
Voyant qu'elle reprenait l'ascendant, la directrice ajouta, avec un peu plus de douceur cette fois.
Les Allemands les appelaient les « enfants parfaits ». La quintessence du régime nazi. L'avenir de la race aryenne. Personne n'a envie de savoir qu'il porte cet héritage.
Ludivine reposa le couvercle sur la boîte. La directrice avait raison. Elle n'avait pas de raison valable, sinon une curiosité déplacée, pour fouiller là-dedans.
« Ce sont des personnes âgées maintenant, » ajouta la petite femme. « Ils ont des enfants. Il ne faut pas les tourmenter avec tout ça. »
La gendarme hocha la tête.
« Vous n'avez pas... des enfants. »
Aucun des tueurs ne pouvait être un des bébés du Lebensborn. Ils étaient bien trop jeunes pour ça. En revanche, ils accordaient une grande importance à cet endroit. Et si les victimes n'étaient pas choisies au hasard? Une idée faisait son chemin dans la tête de Ludivine. Une idée folle. Et s'ils chassaient les descendants des bébés nés ici, à l'époque allemande, pour purifier le pays? Ou au contraire, parce qu'ils n'étaient pas dignes de cette race pure? Ludivine n'en savait rien. Cependant, il y avait là une hypothèse à ne pas écarter. Elle ressouleva le couvercle. « Je vais tout de même saisir les noms de ces enfants, » dit-elle déterminée. « Leurs descendants sont peut-être en danger, madame. Je vais tous les noter, que vous m'aidiez ou non, mais plus vite je les aurai, plus vite je pourrai les mettre à l'abri, s'il s'avère que mes idées ne sont pas si loufoques qu'elles en ont l'air. Alors si vous pouviez me dire où ils sont dans toute cette paperasse, je gagnerais un temps précieux. » La directrice se raidit, puis elle remonta ses grosses lunettes sur son nez, étendit la main vers une autre boîte.
« Ils sont dans celle-ci, si je me souviens bien. »
20 enfants étaient nés dans le Lebensborn français. 11 avaient été renvoyés vers l'Allemagne, dès leur naissance, pour être élevés selon la doctrine nazie, dans des familles ralliées à la cause d'Hitler. 9 n'avaient pas eu le temps d'être arrachés au sol français. 6 hommes et 3 femmes qui avaient grandi dans des orphelinats. Aucun des noms que Ludivine avait griffonnés sur son carnet ne correspondait à celui d'une des victimes. La directrice lui avait pourtant certifié que les enfants étaient devenus pupilles de l'assistance publique sous leur identité référencée ici même. Les noms de leur mère française, avec des prénoms allemands, choisis par les nazis du Lebensborn. Tous nés en 1944. Ludivine voulait tout de même en savoir plus par acquis de conscience. Elle voulait se renseigner sur chacun, écarter toute piste de ce côté-là. Lorsqu'elle remonta à la surface, la lumière du jour l'agressa en même temps que son portable lui signala qu'elle avait un message. Magali avait tenté de l'appeler pendant qu'elle était enfermée au sous-sol, sans réseau.
« Ludivine, on a du nouveau. Cyril Capucin est routier. Il travaille à son compte et dispose de son propre camion. Nous sommes parvenus à choper son immatriculation. Et tu sais la meilleure? On l'a repéré. Il est passé par le péage de Beaumont sur l'A4 hier, à 17h15. Il est rentré en France. Nous avons une photo de la cabine. On le voit clairement dessus. Et il n'est pas seul. Attends, je t'envoie la photo sur ton portable. Rappelle-moi quand tu as le message. »
Une seconde sonnerie signifia l'arrivée d'un autre message. La photo s'afficha. De mauvaise qualité. Presque sans couleur. On voyait un poids lourd de face. Un homme fin et chauve, au volant. À ses côtés, un autre individu était assis, un peu en retrait. Le visage partiellement dissimulé dans l'ombre. Mais Ludivine en vit assez pour distinguer ses cheveux blancs. Un vieux monsieur. La gendarme s'immobilisa dans la cour du Bois Larry, devant le manoir. Elle baissa les yeux sur son carnet, sur la liste des enfants nés en 1944, entre ses murs. Ce n'était peut-être pas une marque de conquête que les tueurs avaient laissée ici, mais plutôt un hommage à leur maître.